Chapitre 10, les versets 10, chapitre 6, les versets 10 à 20, à la gloire de Dieu. Lisons ensemble, frères et sœurs. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, veuillez vous remettre. Eh bien, nous continuons aujourd'hui avec cette série de messages qui vient se greffer au thème de l'année, qui s'achève tranquillement par la grâce du Seigneur, qui dit « Glorifions Dieu en nous revêtant de l'armure de Dieu ». Glorifions Dieu en nous revêtant de l'armure de Dieu. C'est une manière de glorifier Dieu en prenant les armes que Dieu nous donne pour mener la lutte, eh bien, que nous menons avec Christ à la tête comme le capitaine de l'armée dans laquelle nous nous enrôlons comme soldats. Ça va, frères et sœurs? La Bible nous appelle des soldats. Nous sommes des soldats de Christ. Nous n'appartenons pas à une armée, nous n'appartenons pas à une armée visible, une armée de chair, une armée humaine. Nous appartenons à une armée spirituelle. Et nous avons d'autres entités, d'autres êtres qui combattent avec nous, eh bien, dans ce combat, dans cette armée. Et comme il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre sans armes, Dieu a prévu dans sa parole sacrée, dans sa parole éternelle, les armes avec lesquelles nous devons combattre, avec lesquelles nous combattons. Dans l'Ancien Testament, nous voyons régulièrement le peuple de Dieu aller se battre contre ses ennemis, ses voisins, que ce soit les Ammonites, que ce soit les Amoréens, que ce soit les Amalécites. C'est toujours le même schéma dans le Nouveau Testament. C'est toujours une question de guerre. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et sauf que nous ne combattons pas avec les armes avec lesquelles Israël combattait. Nous combattons avec les armes spirituelles. Nous avions regardé les dimanches passés, les équipements nécessaires à ce combat spirituel. Nous avions regardé la vérité, la ceinture de vérité ou la vérité comme ceinture. Nous avions regardé la justice comme cuirasse. Dimanche dernier, nous avons eu la grâce de regarder le zèle de l'évangile de paix comme chaussure. Et aujourd'hui, nous allons regarder la quatrième pièce de l'armure divine, de l'armure de Dieu, en l'occurrence, la foi comme bouclier. Ça va, frères et sœurs? Tout le monde ici a gain foi. Pas grand monde qui a osé dire ou pas gain la foi. Dieu veut vous entretenir sur ce que vous faites déjà, sur ce que vous avez déjà fait. Parce qu'il sait très bien que Vous avez besoin de vous faire rebattre les oreilles sur la vérité de sa parole. Et c'est ce qu'il entend faire jusqu'à ce que le Christ revienne. Ça va, frères et sœurs? Alors, nous allons parler de cette pièce très importante dont dépendent toutes les autres pièces. Avez-vous remarqué cela, frères et sœurs? Les autres pièces dépendent de cette pièce, de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne penseras pas à vous revêtir de la vérité. Pas vrai, frères et sœurs? Si tu n'as pas la foi, tu ne penseras pas à vous revêtir, eh bien, de la justice. Si tu n'as pas la foi, tu ne te laisseras pas animer du zèle de l'évangile de paix. Il faut d'abord que vous ayez la foi pour qu'il en soit ainsi. Donc la foi, c'est l'arme maîtresse de cette armure, de cet arsenal divin. Et tout passe par la foi. Donc, le texte dit clairement au verset 16, « Prenez par-dessus tout, hein, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel, hein, le langage est clair pour nous inviter à comprendre, à regarder dans quoi nous sommes embarqués, dans quoi nous nous embarquons, frères et sœurs. Nous nous embarquons dans une guerre, dans une lutte. Le langage est un peu poétique, mais en même temps, le langage est très réaliste, en tout cas par rapport au temps où Paul écrivait. C'est à la fois un langage et poétique, mais réaliste. Parce que lorsque Paul parlait de traits enflammés, eh bien, et du malin, les gens qui lisaient avant nous, les premiers lecteurs de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, savaient peut-être mieux que nous de quoi Paul parlait. Pour nous, si Paul disait, regardez bien, frères et sœurs, si Paul disait, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre, eh bien, on pourrait dire les Kalachnikov, les bazookas, les M1, les M14, les M16. Peut-être, nous avons plus clair pour nous, pas vrai, frère et soeur? Parce que les traits enflammés, nous ne sommes pas habitués avec les traits enflammés. La culture dans laquelle nous vivons, à part certains autres pays loin du pays où nous vivons, eh bien, ne connaît pas trop les traits enflammés. Et les traits enflammés, c'est les flèches que l'ennemi décochait contre leur ennemi, parce que ça se faisait beaucoup avec des flèches. Hein? Et ces flèches-là étaient, en plus que c'était des flèches, mais elles étaient enflammées, c'était des flèches allumées. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est de ça qu'il est question, pour que Paul puisse nous montrer comment la bataille est rude, comment la bataille est sévère, comment l'ennemi est déterminé à nous terrasser, à nous cribler, à nous écraser, à nous maltraiter, à nous tuer, si c'était possible. Mais Dieu merci, il ne peut pas nous tuer, parce que le Christ a dit dans sa parole, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Il ne sait pas qu'il ne peut pas nous tuer, il ne le sait pas. Mais en vérité, il va nous maltraiter parfois. Hein, parfois les épreuves, les tracas, les problèmes, les difficultés, comme je le disais vendredi soir, vont arriver en cycle, en boucle dans notre vie, comme si c'était possible pour nous de mourir. Non, nous pouvons tomber, mais nous ne pouvons pas mourir. Mais le Seigneur le sait, il le sait, il nous garde, il nous tient dans sa main. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous préserve. Mais il nous demande de coopérer avec lui pour combattre le mal. Est-ce qu'on est là? C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous garde en vie, en sa présence, en sa parole, dans la communion. Mais il nous demande, nous aussi, de coopérer avec lui. Je prêchais vendredi sur David. Le Christ avait a donné la victoire à son serviteur. Mais il appartenait à David, eh bien, d'aller en guerre contre les Amalécites. Même chose pour Josué. Je veux livrer Canaan au peuple d'Israël selon sa promesse éternelle. Mais il a fallu que, eh bien, le peuple d'Israël, en arrière de Josué, eh bien, puisse aller en guerre contre eh bien, les Cananéens. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Le schéma ne change pas. C'est toujours Dieu qui combat, mais son peuple s'associe à lui dans son combat pour la partie qui le concerne. Est-ce qu'on est là? La partie qui nous concerne, c'est quoi? C'est de nous revertir de l'armure de Dieu. Et puis laisser Dieu œuvrer. Lorsque... Et le texte nous dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Comme je le disais, nous avons tous une idée de ce qu'est la foi. Mais j'aimerais rajouter que, en dessus de tout ce que nous savons de la foi, vous devez vous rappeler que la foi, c'est l'essence du christianisme. L'essence, la quintessence du christianisme. C'est-à-dire que la foi, c'est ce qui fait que le christianisme comme pratique, comme vie, est christianisme. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est ce qu'on appelle essence dans le langage universitaire. C'est ça, la foi, c'est l'essence de la vie chrétienne. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Voilà pourquoi l'Écriture dira, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, tu n'as pas vu le mot foi, mais il y a croire. Et croire est relié à foi. Ça va? Le chrétien, l'enfant de Dieu, pour qu'il soit chrétien, a besoin de savoir, de connaître, de comprendre, de croire, eh bien, que Dieu est l'auteur de la parole de Dieu. En faisant cela, le chrétien fait un acte de foi. Est-ce qu'on est là? Ça commence là. Que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il a besoin de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Une deuxième manière de faire acte de foi, de manifester sa foi, de dire que moi, je suis chrétien, moi, je crois dans mon Dieu, c'est de croire que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. En dehors de ces actes de foi, en dehors de ces gestes de foi, on ne peut pas parler de chrétien ou on ne peut pas parler de chrétienté ou de vie chrétienne, frères et sœurs. Il faut aussi croire que Christ, non seulement il est mort, il est ressuscité, mais également il faut croire, ou traduire, pour manifester sa foi, eh bien, lorsque la parole nous dit que Christ, eh bien, reviendra un jour chercher l'Église, chercher les saints pour vivre avec lui dans la gloire éternelle. Pourquoi j'ai besoin de dire ça? Mais c'est pour vous dire que, qu'est-ce que ça veut dire quand l'auteur dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est tout simplement pour la raison pour laquelle, on connaît ça déjà, la raison pour laquelle je vous le dis, j'essaie de vous montrer, ça peut paraître abstrait, quand l'Écriture dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Mais ça que la foi même, pasteur. Mais je suis en train de vous décortiquer, de vous dévoiler, de vous rappeler, eh bien, et des exemples, des gestes de foi, de manifestation de la foi. Eh bien, le chrétien sait que, celui qui a la foi sait que, en se détournant du péché et de lui-même, parce qu'au final, c'est ça, être chrétien, c'est se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? En se détournant du péché et de soi-même, c'est pas facile, se détourner de soi. On peut se détourner du péché. On peut se détourner de l'argent. On peut se détourner du monde. On peut se détourner du reste du monde, des autres. Mais c'est pas facile de se détourner de soi. Est-ce qu'on est là? Mais il faut, si tu ne te détournes pas de toi, eh bien, tu n'es pas en train de revêtir le bouclier de la foi. Ça prend la foi. C'est par un acte de foi que nous pouvons arriver à nous détourner de nous-mêmes. L'Écriture parlera de renoncer à nous-mêmes. Dans Habacuc 2, verset 4b, et Habacuc est rejoint par Saint Paul, dans l'épître de Saint Paul aux Romains, il dira, en peu de mots, qui est dit ici, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on est là? Le Christ vivra par la foi. Pardon, le juste vivra par la foi. Mais oui, le Christ aussi, dans son humanité, dans son, comme serviteur. Oui, c'est ça. Le juste vivra par la foi. La foi, frères et sœurs, c'est quoi? La foi dont nous devons nous revêtir, la foi qui est ici assimilée à un bouclier, c'est quoi? La foi, c'est croire pleinement, parfaitement, inconditionnellement en Dieu et en sa parole. Est-ce qu'on est là? Si vous vous attendez à une grande envolée oratoire aujourd'hui, vous n'en aurez pas. Je veux vraiment rester didactique. On fait ça doucement, slow. D'accord, frères et sœurs? On va replonger dans ce que nous savons déjà. Juste ça, on fait là. Parce qu'il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quand il me dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, si je pose, si j'ai l'habitude de poser des conditions pour croire, je dois commencer à m'en défaire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je n'ai pas de conditions à poser pour croire. La foi véritable, est inconditionnelle. Ça transcende la conditionnalité. Est-ce qu'on est là? La foi transcende les temps, la foi transcende les circonstances. En d'autres termes, je ne peux pas croire aujourd'hui et ne pas croire demain. Je ne peux pas croire maintenant parce que je vis tel moment, telle circonstance, et plus tard parce que les circonstances changent, puis ma foi change. Est-ce qu'on est là? La foi transcende les circonstances. La foi dont Saint Paul nous demande de nous revêtir ici comme bouclier, eh bien, si vous voulez savoir qu'est-ce que texte là dit là, ce n'est pas juste la foi, F-O-I, trois lettres, puis c'est réglé, on sait de quoi il parle. On veut ouvrir la boîte pour regarder en dedans c'est quoi, de quoi Paul nous dit de nous revêtir ici. Qu'est-ce que Paul assimile à un protecteur, à un bouclier ici, frères et sœurs, entre les mains de Dieu? La foi véritable dont vous et moi, nous devons eh bien, nous armer pour glorifier Dieu, cette foi n'a pas besoin de réponse pour croire. Est-ce qu'on est là? Souvent, le chrétien va se retrouver devant des circonstances. Il posera des questions pour savoir comment les circonstances sont-elles comme ça, sont-elles devenues comme ça? Là, et suivant les réponses, eh bien, la foi va croire. Non, la foi est extra et circonstant. Circonstant. Des hommes comme Enoch, Abel, Noé, Abraham et Moïse ont eu leurs faiblesses, comme vous et moi. Pas vrai, frères et sœurs? Mais ils semblaient pénétrer une dimension de la foi que m'a demandé mon Dieu pour le faire me pénétrer aujourd'hui. Pas vrai? Il semblait être l'autre bagaille que moi. Il semble avoir vu quelque chose d'autre, avoir compris quelque chose que, je ne vais pas dire vous, mais moi, que Sergo ne comprend pas. Et pourtant, nous sommes dans une plus grande grâce que les autres. Hein? Pas vrai? Parce que nous avons vu l'accomplissement de l'espérance. Et ils ne l'ont même pas vu. Quand ils faisaient preuve de foi véritable, de résistance, d'authenticité, de vérité, ils faisaient tout cela sous la base d'une espérance. Savoir la venue du Christ. Ne voilà-t-il pas que nous qui voyons la consommation, la manifestation, l'accomplissement des promesses, de l'espérance, parfois c'est plus difficile, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de parler de vous. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes de foi, Dieu merci. Ils avaient une haute opinion de Dieu, de ses promesses, de sa parole. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous entretient de la foi au verset 1er du chapitre 11. Sans la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit. Si je crois chaque fois que je vois, quand je ne vois pas, je ne crois pas, eh bien, je ne m'arme pas. je ne revais pas mon bouclier de la foi. Est-ce qu'on est là? Je reprends. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en réalité, la foi ne fonctionne pas avec la matérialité. La foi relève de l'invisible. Est-ce que l'Église est là?
Amen.
Dès que je suis un genre de chrétien, tout le temps, je ne suis pas mon travail à faire. Je ne suis pas en train de glorifier Dieu. Je dois habiller moi avec le bouclier de la foi. Pas dans la foi. Le texte le dit. C'est-à-dire que Dieu me dit qu'il va faire grandir ma famille, qu'il va faire grandir mon ministère, qu'il va faire grandir mon église, qu'il va faire grandir ma vie spirituelle, qu'il va faire grandir mon pays. Ce n'est pas fait encore. Mais je dois servir Dieu, je dois honorer Dieu, je dois me tenir devant Dieu comme si c'était déjà fait. Je ne sais pas quelle interprétation est-ce que tu donnes à ce texte disant « La foi est une ferme assurance ». C'est ça que ça veut dire. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. D'où vient cette espérance? Du fait que Christ l'a promis. Oh, je ne le vois pas, puis je n'ai pas juste une assurance, mais une ferme assurance que c'est fait. Ce n'est pas que ce sera fait, mais que c'est fait. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je ne peux pas rentrer dans les autres détails. La foi, c'est l'assurance que les promesses de Dieu ont un contenu. Au contraire, ça veut dire, quand nous disons que la foi est une assurance, que les promesses de Dieu ont un contenu, ça veut dire, promesse bon Dieu, il n'y a pas promesse creuse. Nous allons dans nos bagages qui nous dit parole en l'air. Et ça veut dire en créole là. La foi, c'est que le bon Dieu dit ça, ne crains point, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, que ce n'est pas parole en l'air. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? La foi, c'est d'être convaincu que les promesses de Dieu ont un contenu. La foi, c'est d'être convaincu que les promesses de Dieu ont une essence. Ça veut dire quoi? L'essence, c'est la substance. C'est-à-dire ce qui fait que la promesse est promesse, c'est parce qu'il y a un Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je ne crois pas à la promesse parce qu'il faut que je croie. Je crois à la promesse parce que c'est Dieu qui est l'essence de la promesse. Parce que la promesse repose sur le pouvoir de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur la justice de Dieu, sur la capacité de Dieu. L'homme croit dans la promesse, ça, en fait, ce n'est pas dans la promesse, c'est dans mon Dieu, je crois. Parce que c'est lui l'auteur de la promesse, c'est lui l'essence de la promesse. C'est lui qui fait que la promesse a un sens. Et la foi, c'est aussi le fait de croire que la promesse a une réalité. Pas aura une réalité, mais a déjà une réalité. Si vous lisez la Bible de manière approfondie, c'est ça que fait notamment arriver dans un contexte côté tout le monde. Eh bien, fais études bibliques, allez dans l'école biblique si c'était possible. Lors les Bibles là, vous faites bon exégèse, bon herméneutique, bon interprétation qui est responsable, qui est respectueux du texte. Ou qu'on nous bagaille, moi je dis ça déjà ici, oui peut-être. Savez-vous quelque chose concernant les promesses de Dieu? J'ai déjà dit ça ici, mais malheureusement, on va vous montrer parfois des exemples. L'Écriture nous montre dans la parole que quand Dieu fait une promesse, il fait bagaille là déjà. Je vais vous donner un exemple, oui. Je ne vais pas vous garder là, ce n'est pas souvent prêché. C'est pour moi avec le futur, pour mon Dieu, il est présent déjà. Vous m'avez compris, frère et soeur? En parlant de l'époque d'Abraham, voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, au verset 13, cette fois-ci, toujours du chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses pour. Ça peut arriver, frère, ça prend 10 ans. Ça peut arriver, frère, ça prend 15 ans. Ça peut arriver, frère, ça prend 20 ans, ça prend 25 ans, ça prend 10 ans, ça prend 2 ans. Cela n'enlève rien à la certitude des promesses de Dieu. C'est ce que le texte dit. Est-ce qu'on est là? Ne vous tracassez pas. sans avoir vu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués d'eux. Les patriarches sont morts. Ils n'ont pas expérimenté l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais leur foi, le bouclier de la foi, ils ne l'ont pas baissé. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Garde ton bouclier élevé. Ne baissez pas pavillon. Ne baissez pas votre bouclier. L'oratoire, peuple de l'oratoire, jeunesse de l'oratoire. Continuez de croire à votre Dieu, quoi que vous voyez, quoi que vous lisiez, quoi que vous entendiez. Il viendra vous dire que ça n'a pas de sens. Je vous ai déjà dit ici, quelqu'un m'a dit, mais c'est un homme intelligent comme toi. Comment peux-tu croire qu'un roi, un fils de Dieu est mort? Comment peux-tu croire une histoire comme cela? Le Seigneur m'a donné la sagesse de lui donner une réponse. J'ai dit, tu aurais raison, je n'aurais pas dit quoi. Mais je crois parce que j'ai expérimenté sa puissance dans ma vie. Je lui ai dit, écoutez bien, si ce n'était pas vrai, ce qui te semble absurde, si elle l'était vraiment, tu ne m'aurais pas connu aujourd'hui. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Tu ne m'aurais pas connu aujourd'hui. Je suis dans l'université avec un pays étranger. Je suis venu à Montréal, je suis rentré. Pas des amis ici. J'avais quelques cousines loin. Quelques parents loin. Mais où est-ce que je c'est parce que bon Dieu mettait mon côté mieux. Et puis quand on est dans un pays étranger, ma pétude dans un pays étranger, j'avais rempli les conditions pour être boussier. J'étais pas boussier parce que j'avais pas de parrain. Mais Dieu m'a servi de parrain. Dieu m'a servi de parrain, j'ai étudié dans de bonnes conditions, j'ai accompli les rêves de ma vie. Parce que je n'avais pas de relation pour être boursier du gouvernement. Alors, viens pas me dire que c'est absurde la foi chrétienne. Si c'est absurde, c'est pour toi, ça l'est pas pour moi. Et tant aussi longtemps que ça restera absurde pour toi, tu iras en enfer. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ils ont vu le ciel avec le regard de la foi. Le texte parle, ils reconnaissaient le fait qu'ils étaient pèlerins. Ils ont vu la ville céleste promise par Dieu, selon le verset 10b. La foi, frères et sœurs, nous convainc des réalités qu'on ne voit pas. Comme croyants, nous devons demander à Dieu de nous faire la grâce de continuer à vivre dans la foi, par la foi et pour la foi. Ça va, frères et sœurs? Dans la foi, et pas dans la foi, le sabon, quand nos attentes sont comblées. Dans l'enseignement, souvent, je suis amené à faire un travail de counseling pastoral. Sans le vouloir, mais une sens que bon Dieu, toujours, Dieu me donne toujours une parole à partager. Des gens qui disent que, parfois des personnes qui viennent d'autres pays, et parce que souvent, vous êtes obligé d'avoir un bulletin au père, un bulletin à la mère. Moun ki nan sèmen la konn sa. Deux bulletins séparés. Mais c'est moun yo t'ap viv ensemble très bien. Là ou té nan pays côté ou té yé. Ou du moins, s'ils ne sont pas des immigrants comme moi, je ne sais pas comme vous, mais comme moi, s'ils ne sont pas des immigrants, avant, ils vivaient très bien. L'un croyait en la vertu de l'autre. L'un croyait en l'amour de l'autre. Mais quand les gens commencent à vous expliquer ce qui est arrivé, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont chacun dans un coin, vous regardez l'essence des choses, vous voyez une chose, c'est un manque de foi. Tu ne peux pas qualifier les affaires des gens, ce n'est pas ton rôle. Mais vous sentez que la foi n'était pas au rendez-vous. Parce que cette foi-là était liée à des circonstances. La foi a du sens, la foi a de la valeur quand la foi est foi dans toutes les circonstances. Une foi qui vacille, une foi qui est changeante, n'est pas la foi véritable. En tout cas, ce n'est pas de cette foi dont nous devons, vous et moi, nous revêtir dans ce passage, frères et sœurs. Qui se rappelle l'histoire de Josué? Cet homme que Dieu a choisi, a appelé à Ouin, pour faire entrer Israël en Canaan à la suite de la mort de Moïse. Une grande ville à conquérir, on appelle Jéricho. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Au verset 1er, la Bible dit que la ville était barricadée. Quand on dit barricadée à l'époque, frères et sœurs, la mentalité était tellement guerrière. Quand on dit barricadée, c'était barricadée. La ville était barricadée. Les murs étaient épais. Il y avait de grosses et hautes murailles. À ses yeux, Josué ne pouvait pas, quant à lui, investir, entrer à Jéricho. Mais Dieu l'a fait, frères et sœurs. Mais on ne va pas lire le texte. Mais c'est une histoire connue de tous presque. La seule raison qui fait que Josué a pu entrer, c'est parce qu'il a fait foi dans ce que Dieu lui avait dit. Je ne sais pas. Les instructions étaient bizarres. Les instructions divines ne relevaient pas du bon sens commun. Il n'y avait pas de logique dans les instructions que Dieu avait données à Josué. Moi, comme leader, je me demande qu'est-ce que je ferais si Dieu m'avait dit de procéder de même. Nous sommes frères et sœurs. Frères et sœurs, quelle est cette histoire de gens qui vont faire le tour de la ville? Vous vous rappelez? Elle est où la logique? Les gens, le peuple en arrière de moi, l'église en derrière moi, moi je fais le tour de la ville, mettre ville là en les murailles là, ils peuvent lancer n'importe quoi sur moi en bas, les gens vont rire de moi quand je vais faire le tour de la muraille, et c'est ce que Dieu me dit de faire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quelle absurdité! C'est comme aujourd'hui, de croire en la croix de Jésus, de croire en la mort de Jésus. C'est exactement la même chose. C'est absurde d'être fidèle à Dieu, d'être honnête, d'être loyal. Mes intérêts sont en jeu. Tu me dis d'être loyal, d'être intègre. Je me suis égaré mieux. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? J'ai besoin de me marier. On vient parler de marier à mon converti. Soit dis-moi là, l'âge à rentrer. On est d'accord avec ça, frères et sœurs? J'ai besoin que mon assemblée soit remplie. On vient parler de prêcher l'évangile, vrai évangile. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Vous pouvez multiplier les exemples de choses qui pourraient nous paraître absurdes quand Dieu nous demande d'être honnête, d'être sincère avec lui, d'être consacré. On est là, frères et sœurs? Mais le texte dit, vous connaissez l'histoire mieux que moi peut-être. Vous ne pouvez pas me compte, mais Josué fait ça, mon Dieu dit le faire, frères et sœurs. Quoi? Au septième jour? Oui, septième jour. Ils l'ont fait une fois cette fois-ci, hein? C'est ça? C'est ça l'histoire? Aidez-moi donc à prêcher. Cette fois-là, le septième jour? Et puis, c'est comme quand tu as prêché, frère Edzer, sur un amant qui devait plonger dans la rivière du Jourdain. Toutes ces instructions absurdes. Mais la foi nous rend obéissants. Et de notre obéissance découle notre délivrance. L'obéissance produit la délivrance. Voilà pourquoi l'adversaire, il ne veut pas que vous et moi nous obéissions. En tout cas, il veut pas que Sergo obéisse. Il n'aime pas ça. Il dit qu'on est depuis m'obéir, il m'a béni. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et alors que Dieu a un plan de bénédiction sur ma vie, lui a un plan de malédiction sur ma vie. Comment il chemine pour m'empêcher d'avoir les bénédictions de Dieu? Il me rend récalcitrant aux ordres divins. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu dit, fréquenter l'église. Je ne pas fréquenter l'église. Dieu dit, lis la parole. Je ne pas lire la parole. Dieu dit, m'obéissant. Je ne pas obéissant. Mais souvent, ce n'est pas juste ma volonté. C'est parce que j'ai un ennemi qui ne veut pas que je sois béni. Qui ne veut pas que les desseins de Dieu s'accomplissent sur ma vie. Veillez! Est-ce que ça va, frères et sœurs? Et Josué, l'homme de Dieu, a conduit le peuple de Dieu dans le pays promis. Ils ont remporté la victoire. C'est par la foi, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, que j'évoquais tout à l'heure, ici au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Je ne sais pas quelle muraille est-ce que tu as devant toi aujourd'hui. Je ne sais pas quelle muraille se dresse devant ton ministère. Je ne sais pas quelle muraille se dresse devant ta vie. Je ne sais pas quelle muraille se dresse devant ta profession. Je ne sais pas quelle muraille se dresse dans ta vie familiale, dans ta vie affective, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie de santé. Mais je sais que par la foi, cette muraille peut tomber, frères et sœurs. Voilà pourquoi Saint Paul nous demande, nous encourage à nous revêtir par-dessus tout du bouclier de la foi. Parce qu'il a lu dans la parole de Dieu que la foi fait tomber les murailles. Et même par les murailles les plus fortes murailles. Revêtons-nous du bouclier de la foi, frères et sœurs. La guerre que nous menons contre le diable, ce n'est pas une question de force, mais une question de foi. Est-ce qu'on est là? Ce n'est pas combien tu as en banque. C'est une question de quel est le niveau de ta foi. Ce n'est pas une question, frères et sœurs, eh bien, d'intelligence, mais c'est une question d'obéissance. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Une question d'obéissance. Ce n'est pas une question de compréhension, mais une question d'onction. Ça va, frères et sœurs? Satan va continuer à lancer des flèches. Flèches, ici, c'est très, hein, je le dis. Il va continuer à lancer des traits enflammés, pas juste des flèches, non? Comme si ce n'était pas suffisant pour lui. Il faut que ça soit des flèches en flammes. Il faut que du feu là-dedans, nous, frères et sœurs. Voyez-vous l'image? Autrement dit, l'ennemi ne ménage aucun effort pour nous bousiller, pour nous troubler. Mais par la foi, nous pouvons vaincre les traits enflammés du malin. Lorsque le vin n'est pas besoin de nous, parce que nous cachons dans le bouclier divin. Dieu est capable de nous servir de bouclier. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, quand nous croyons aux promesses de Dieu, ce n'est pas aux promesses que nous croyons, c'est à Dieu, c'est en Dieu que nous croyons. De la même manière, quand nous revêtons du bouclier de la foi, ce n'est pas la foi lui-même qui vient bouclier, non, c'est bon Dieu qui vient bouclier nous. L'Écriture présente Dieu comme un bouclier pour son peuple. Sa fidélité est un bouclier et une cuie. Alors tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tout ça symbolisait temps difficile, tout ça symbolisait être chargé d'épreuves. Tu ne craindras famille, peuple de Dieu, homme, femme, ouvrier, tu ne craindras, tu compris? Tu ne craindras, c'est tu ne devras craindre, tu n'as pas à craindre, tu n'es pas censé craindre, tu n'es pas supposé craindre. Ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, maladie, tracas, difficulté, animosité, hostilité, danger, tu n'as pas à craindre. Pourquoi? Pas parce que tu es quelque chose, pas parce que tu es instruit, mais parce que tu es revêtu du bouclier de la foi. Est-ce que ça va, frères et sœurs?
Ah,
la promesse est réelle. Laissez-moi achever pour dire ceci. L'adversaire, je donne 3 exemples de flèches enflammées du malin. Il y en a 1 million, mais je donne 3 pour terminer, c'est promis. Le premier très enflammé, la première flèche enflammée que l'adversaire dirigera contre toi, c'est la tentation. Est-ce que ça va? C'est la tentation. On va faire ça pour terminer. On va regarder quelques exemples de très enflammés. La tentation. On ne va pas le développer. Le Christ a essuyé cette flèche. Vous vous rappelez? Matthieu 4, verset 3 à 11. Le tentateur s'était approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Nous connaissons l'histoire, pas vrai? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revêtu le bouclier de la foi en lui disant, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. » Il a revêtu le bouclier de la foi, s'offrant ainsi comme exemple de soldat de Christ. S'offrant ici un exemple de guerrier, frères et sœurs. Ah, c'est pas terminé. Le diable le transporte à verset 5, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, nous connaît l'histoire, et lui dit, regardez bien, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Là, il passe par le pouvoir. Ça va? Il a commencé avec la possession, et ici, il utilise le pouvoir. Veillez, veillez. Le diable va le mettre possession, va le faire miroiter, bien, possession, devant nous, pour nous dire, bien ça a besoin, Yo ka contribuer à bonheur dans la volonté de Dieu, mais yo pas toute bagaille dans la vie. Amen. Alors on pas négocier mon Dieu pour yo. Est-ce qu'on est là frères et sœurs? C'est ça revêtir le bouclier de la foi. Mais vous me besoin bien. Là j'ai une maison. Si bon Dieu t'est bon de l'autre comme t'as bien content frères et sœurs. Est-ce qu'on est là frères et sœurs? Ah, t'as bien content. Mais c'est ça, mais en même temps, on connaît que vim pas réduit à ça. Est-ce qu'on est là frères et sœurs? Vim pas réduit à ça. Alors, si nous comptons ça, les lapins viennent mettre pouvoir, possession devant nous, la paix, eh bien, retourner, bredouille. Nous connaissons ça, ennemi qui a besoin de nous offrir, nos frères et sœurs. Mais restez soudés avec la parole de Dieu. Je vais terminer le message là avec deuxième et bagaille. Deuxième trait enflammé malin habitué à utiliser, mais quel autre? C'est l'accusation. Est-ce qu'on est là? Il cherche à t'accuser devant Dieu, comme il l'a fait dans le cas de Job, et il cherche à t'accuser devant les hommes. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Les hommes, après toute salvine dissous, mais bon Dieu, pas après salvine dissous. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Troisième arme du malin, je vous résume cela, je vous l'ai donné en rafale, c'est la tromperie. Il va essayer de vous montrer que parole là, ce n'est pas comme ça qu'il applique lui. Pasteur applique lui dans façon ni, ou bien l'autre prédicateur l'a appliqué dans façon yo, mais c'est parce que dit la parole, non. Et ça dépend, oui, mais parole a dit ça, mais ça dépend. Quel ça dépend? Oui, Jésus dit ça, mais ça dépend. Ça dépend, oui, ça dépend de contexte ça. Quel contexte? Ça va, frère et sœur? La parole de Dieu est parole de Dieu dans tous les contextes, ça va? C'est ça, revêtir le bouclier de la foi aussi, frères et sœurs. Je termine avec ça. Bien-aimés qui étaient allés dans. Les bien-aimés m'ayant accompagné quand je suis allé prêcher à Adorateur, ils m'ont fermé mes oreilles parce que autant de ça, je ne vais pas le dire là déjà. Ils m'ont fermé les frères Willem, les frères Edzer, c'est Amar, qui d'autant qu'on ne va pas songer. Donc, je vais reprendre cette même bagarre là ici. Le ennemi a besoin d'accuser où? Je vais terminer avec ça. Ouvrez les oreilles claires, grand s'il te plaît, je vais terminer avec ça. Il y en a un bagarre qui peut chercher fait. Libéral chercher, eh bien, montrer où que vous n'avez aucune espérance en Christ. Libéral chercher, montrer où que bon Dieu n'a pas garanti ou sécurité. Bon Dieu n'a pas rien pour la Bible, pas un bagage comme si vous obligez quoi là dans nous, l'innégociable. Libéral essayer de montrer où, frères et sœurs, eh bien, que sous tes petites bon Dieu, vous t'avez béni déjà. Pour le moment, tu as résolu déjà. Si mon Dieu t'est là, l'église t'a rempli déjà. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Mes réponses pour Bali. Mes réponses pour Bali. L'aile pour aller chercher, il faut qu'on ait qu'on n'a rien à mon Dieu. Faites qu'on ait que vous êtes fils de Dieu. Ça va? Il faut jouer dans la pensée. Quand on arrive là, ou fini, frère, ou fini, soeur, ou papa y a encore, bon Dieu, pas besoin encore. Dis-lui, bon Dieu, par contre, pas besoin, petit, ça va? Amen. Dis-lui que vous avez été justifié, vous êtes revêtu de la justice de Dieu. Dis-lui que vous êtes uni à Jésus-Christ, vous êtes un avec Christ en esprit et en vérité. Dis-lui que vous avez été racheté, vous avez de la valeur pour avoir été racheté au prix du sang du Fils de Dieu. Dis-lui, frères et sœurs, que vous avez été pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Péché que m'gain là dans le présent, parce que m'abandonné, pas si je ne l'abandonne pas, parce que m'abandonné, parce que moi confessé lui, eh bien, la mort Christ là, lui applique à péché ça à tout. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je suis complet en Christ, parce qu'il habite mon esprit, il habite ma pensée, il habite mon cœur, il habite mon corps, il habite mon âme. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dis-lui que vous avez un accès direct auprès de Dieu. Les gens, quand ils ont un accès direct auprès d'une autorité, ils sont contents. Mais souvent, l'Église oublie qu'elle a accès à l'autorité suprême. Nous avons accès au trône de Dieu dans la prière. Dis-lui que vous êtes en sécurité lorsqu'il viendra vous faire savoir que vous n'êtes pas en sécurité. Lorsqu'il viendra vous faire croire que vous êtes condamné, dis-lui que vous êtes libre de toute condamnation. Dis-lui que vous êtes assuré que Dieu travaille à mener à la perfection l'œuvre de salut, de vie éternelle, de justification, de réconciliation, de paix qu'il a commencé dans votre vie. Dis-lui que vous êtes, eh bien, rétabli, vous êtes oint, vous êtes scellé par Dieu. Quand il viendra essayer de vous dévaloriser, dites-lui que vous êtes caché en Dieu. Dites-lui que vous êtes confiant que Dieu, eh bien, accomplira le travail qu'il a commencé. Dites-lui que vous êtes citoyen des cieux. Dites-lui que vous avez reçu un esprit de force, un esprit de joie, un esprit de paix. Dites-lui que vous êtes né, eh bien, par la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui t'a forgé comme peuple de Dieu. Dites-lui que vous êtes signifiant. Dites-lui que vous êtes branché à Christ. Dites-lui que vous êtes le ministre de la réconciliation. Dites-lui que vous êtes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Dites-lui que vous pouvez vous approcher de Dieu en tout temps. Et enfin, dites-lui que vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Ça va, frère et soeur? J'évoque ça un à un, mais quand on met tous ensemble, on vit une vie de foi. Autrement dit, j'explique par la pratique ce que ça s'entend, eh bien, revêtir le bouclier de la foi. Quand tu as cette attitude dans les épreuves, quand les mauvaises pensées essayent de s'insinuer dans ta tête, dans ta pensée, quand les mauvaises pensées essayent de s'insinuer dans ta pensée, eh bien, quand tu fais remonter tout cela que j'ai nommé là à la surface, eh bien, te revêts du bouclier de la foi. Voilà, dans la pratique chrétienne, qu'est-ce que ça signifie revêtir le bouclier de la foi? C'est de croire dans les promesses de Dieu, par-delà les circonstances. En dépit des circonstances, je crois. Voilà ce qu'on appelle revêtir la cuirasse de la justice. Laissez-moi vous dire, quand je prêchais par rapport à la justice, je termine, quand je prêchais la foi passée par rapport à la justice, quand je prêchais par rapport à la vérité, mais notamment par rapport à la justice, je disais une chose. Je disais que si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas vivre une vie de justice. Non, soyez ça, frère et soeur. Ce que je disais s'applique ici aussi. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu ne peux pas revêtir le bouclier de la foi. Ça va? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a planté la foi en nous. Et nous collaborons, nous coopérons avec Dieu pour que notre foi grandisse, ne serait-ce qu'à travers les épreuves. Est-ce que ça va? Mais il faut d'abord que je croie en Dieu et à sa parole. Autant dire, si quelqu'un est avec nous ici à matin, hein, qui peut accepter Jésus comme étant son sauveur personnel, je l'invite à le faire. Je l'invite à recevoir Jésus dans sa vie. Parce qu'en ayant Jésus dans sa vie, on sera capable de mener une vie chrétienne victorieuse dans la foi et par la foi. Sinon, on ne peut pas. Il faut d'abord commencer par le commencement. Le commencement, c'est la conversion. Le commencement, c'est la régénération. Le commencement, c'est la justification. Le commencement, c'est la réconciliation avec. Le commencement, c'est la sanctification. Autrement dit, sans l'obéissance initiale, c'est-à-dire l'obéissance qui amène au salut, il ne saurait y avoir d'obéissance pratique. Ça va? Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ah, c'est ça que ça veut dire. Tu vas demander au monde d'obéir à Dieu? Jamais, ils ne pourront pas. C'est toi, c'est moi qui peuvent obéir, tant bien que mal, là encore, à Dieu. Pas vrai, frères et sœurs? Que dire si la personne n'a pas accepté Christ encore comme son sauveur? Voilà pourquoi j'invite ceux qui sont parmi nous, qui n'ont pas encore Jésus, eh bien de l'accepter comme sauveur. Vous allez avancer, nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder pour vous, nous allons remercier Dieu avec vous et pour vous. Et nous savons, à partir de ce jour, tu marcheras dans la victoire à Dieu. S'il y a aussi, parmi nous, on ne sait jamais. Moi, j'imagine, là, je suis dans l'imagination, puis c'est correct aussi. S'il y en a un qui a un péché, qui l'empêche de vivre une vie de foi, ça existe ça aussi. Il est déjà sauvé. Il est déjà en Christ, il est déjà converti, mais il y a un péché dans sa vie qui l'empêche de vivre une vie de foi. Je l'invite également à s'approcher. On va prier avec toi. Celui qui avoue ses péchés, qui les reconnaît, qui les délaisse, eh bien, ils ont le salut. Ils ont la paix. La destinée de Dieu sur ta vie, ce n'est pas que tu patauges dans ce que tu es en ce moment. C'est que tu t'en sors. Mais pour t'en sortir, ça prend la foi. C'est le bouclier, c'est la volonté du malin pour que tu restes. Mais Dieu veut que tu t'en sortes. Mais tu ne t'en sortiras pas sans la foi. Il faut faire acte de foi pour pouvoir t'en sortir. C'est peut-être votre muraille. C'est peut-être votre mer rouge qui est devant toi. Mais le Christ, le Dieu qui a fendu la mer rouge et qui a permis à son peuple de traverser et de s'installer plus tard, ne serait-ce que 40 ans plus tard, dans la terre promise, il est capable également de te faire rentrer dans sa joie, dans sa paix. De toute façon, il t'a déjà donné la vie éternelle. Mais il y a une parenthèse dans ta vie, provoquée par une vie de désobéissance. Brisons donc cette vie de désobéissance. Brisons donc ce fil qui nous retient. S'il n'y en a personne, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Nous sommes contents avec vous et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.